France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
On peut faire rire une personne mille fois, on peut faire rire mille personnes une fois. Les Tuches en font rire des millions et ça fait 14 ans que ça dure. 14 ans que cette famille installée à Bouzolles dans le Nord enchaîne les aventures, les gaffes, les déconvenues parfois. Mon invité, lui, joue le père, Jeff Tuche, fier chômeur, propriétaire d'une Nevada et d'un club de foot, doté d'un accent à couper au couteau, fan de frites et de bières locales. Sauf que, pour le cinquième épisode, qui sort mercredi en salle, il est aussi réalisateur. Est-ce qu'on continue à se marrer quand on est devenu le patron? On va voir ça avec lui. Bonjour Jean-Paul Rouve.
Bonjour.
Et merci et bienvenue dans les Midis de Culture. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment quand vous arrivez à faire rire quelqu'un?
Ah là là, c'est un bonheur absolu. Vous pouvez pas savoir ce que c'est.
Et c'est ça, c'est justement pour ça que je pose la question.
Ah mais c'est terrible, c'est génial. Et encore plus que faire rire soi, c'est quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous avez écrit des vannes, et vous êtes caché derrière, vous écoutez, vous entendez la salle rire. Mmh. Et là, mais c'est un bonheur.
C'est du bonheur, c'est physique, c'est...
Ah oui, c'est bonheur, c'est physique. Oui, ouais. Bien sûr. Oui, oui. Bah oui, oui, bah... De... Oui, oui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais je pense que c'est comme faire pleurer ou comme, mais oui, c'est une satisfaction énorme. On dit, ah, cette vanne, elle marche. Ah, ça fait rire. Autant de gens. Ah
ouais. Là là, ouais. Ouais, le nombre, c'est important aussi.
Ouais, le nombre, bien sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. Parce que faire rire sa mère, c'est pas dur.
Ouais,
ah, ça dépend. Ouais.
Le rire de votre mère, c'est quand même pas mal.
Mais bien sûr, bien sûr.
On reçoit demain le comédien Vincent Dedienne qui disait que lui, l'humour, le fait de faire rire, ça l'avait beaucoup aidé, notamment pour parler de son homosexualité et l'assumer. Vous, l'humour dans votre jeunesse ou dans votre vie, ça a été quelque chose qui a pu vous aider?
Mais tellement, vous pouvez pas savoir. Moi j'étais très très timide, j'étais très timide, je me faisais beaucoup moquer aussi quand j'étais môme par les autres, parce que je me sentais certes un peu différent, mais comme ce que doit ressentir Vincent, mais moi c'était du fait que j'avais pas les mêmes goûts, les mêmes hobbies que mes camarades qui étaient très au foot, tout ça. Moi déjà je m'intéressais au théâtre, et quand vous êtes ado, vous intéressez au théâtre, ils comprennent pas les camarades, parce que dans les cours de théâtre, quand vous êtes jeune ado, il y a que des filles en fait.
Ah ouais.
Et donc ils comprennent pas. Et c'est vrai que je me faisais moquer beaucoup. Et quand j'ai découvert le rire, j'ai compris que c'était une arme, c'était une protection, c'était tout à la fois. Déjà quand vous riez de vous-même, ça vous protège, parce que ben l'autre ne peut plus vous attaquer. Mmh. Vous l'avez déjà fait. Et je me suis rendu compte, oui, que c'était une arme. Et puis en grandissant, vous rencontrez, quand vous devenez vraiment adolescent, que vous commencez à vous intéresser aux filles, vous vous rendez compte aussi que c'est une arme de séduction énorme.
Ouais. C'est donc vrai, ça.
Comment?
C'est
oui,
donc
c'est
vrai.
Oui, ça marche. Oui,
je précise juste, vous essayez de le caresser pour qu'il fasse pas trop de bruit, mais il y a Gétro, votre petit chien qui est avec vous.
Il a des trucs à dire, je crois, Gétro.
Bah, on lui laissera la parole.
Après, si, avec plaisir. Hein, voilà. Gétro, t'hésites pas, hein, c'est un truc à dire.
Les Tuches, c'est donc une saga dont le premier volet est sorti il y a 14 ans maintenant et qui rencontre effectivement un succès phénoménal, on l'a dit. Aujourd'hui, c'est même un classique de la comédie. Les répliques sont connues, elles entrent parfois dans le langage courant. Et si vous, auditrices et auditeurs de France Culture, vous ne connaissez pas ou au contraire, vous avez envie de réentendre l'humour typique des Tuches, voici un petit rappel avec quelques scènes cultes.
Et moi c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là, t'es là ou t'es pas là? T, comme Tuche, comme t'es là. Tuche, t'es là.
On avait 15 cartes. Comment on a pu les payer? Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer deux cartes, pas 15. Tu peux être 3K, en rigueur, tu peux être 3K, pas 15.
Oui.
T'es d'accord avec moi?
Oui.
Tu peux payer 4 cartes,
c'est vrai. C'est
pas arrivé, tu peux être 4 cartes, mais pas 15. T'es d'accord? Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as de la crème, t'as pas de coup de soleil. Mais si t'as pas de soleil, eh ben t'as froid et t'as du givre sous ta voiture. Alors tu prends une raclette. Et si t'as une raclette, t'as le fromage. Et c'est qui pays du fromage? C'est la France.
Rentre chez toi, Monnier, tu fais peur aux oiseaux. Espèce de chômeur. T'es jaloux?
Tu peux mettre 13 cartes, pas 15. Tu peux mettre 14 cartes, pas 15. Tu peux mettre 15 cartes, pas 15. Ah bah si, tu peux en fait.
Voilà, Jean-Paul oui. Rouve, là on a un exemple des ressorts de l'humour des Tuches, hein. Ça oui. vous fait bien rigoler aussi. Comment vous définiriez là cet humour-là? C'est celui de Jeff Tuche en particulier hein, qu'on entend.
Oui, il est absurde. En fait, c'est Jeff Tuche, c'est l'absurde. Donc, mais moi ce qui me fait rire, c'est de partir d'un postulat de départ complètement imbécile, et ensuite que la démonstration soit totalement logique. Et quand on arrive à la fin de la démonstration, on ne se souvient plus que le postulat de départ était complètement imbécile. Et ça me fait beaucoup rire. C'est très absurde. Mmh. Bah, c'est un peu ce qu'on faisait avec les Robin des Bois. Ça me fait beaucoup rire. Mais là, dans ce que vous avez passé, quand il y en a un sur deux, quand même, j'ai écouté, qui est quand même de l'impro.
Ah oui, c'est de l'impro?
Il y en a, ouais, ouais. Dans ceux-là. Il y en a un sur deux, c'est de l'impro, des choses qu'on trouve sur le tournage et qui restent. Ouais. Comme quoi, hein.
Et là, ce qu'on entend, c'est la répétition aussi. C'est ça qui est drôle.
Oui, c'est ça. Les 15 cartes, par exemple. Ouais. Voilà. Nous, quand on écrit les 15 cartes, on se dit, bon, tu peux perdre une, mais deux, mais trois, bon, ok. Puis on se dit, on va passer par un autre plan. Puis on reviendra et on sera à la fin. C'est ça qu'on fait au cinéma. Mmh. Et nous, on s'est dit, ah non, ce qui est marrant, c'est que ça dure. Et on se dit dans la salle, on se dit, mais il va pas faire les 15 quand même. Si, il va faire les 15.
Et il fait ça beaucoup. Oui. Et chacun des personnages, par ailleurs, a un registre comique très différent.
Oui, c'est ce qu'on voulait aussi. Après, c'est dans l'écriture, ça. En fait, quand vous écrivez une comédie, il faut qu'il y ait plusieurs, comment dire, pas plusieurs ressorts, mais plusieurs chemins de comédie. Mmh. Et donc, chacun a son chemin, qu'il a aussi amené lui, attention, ouais. Il y a aussi les personnages, ils existent, qu'ils ont été créés, et ensuite, les comédiens les affinent. Et ensuite, on va de plus en plus dans ce chemin-là. Ce qui nous permet de pouvoir aller dans différents styles d'humour. Moi, ça m'importe beaucoup, ça, notamment sur celui-là, de pouvoir toucher aussi toutes les générations. Ça puisse faire rire les enfants, ça puisse faire rire les parents. Ma référence ultime, c'est Pixar, quand ils font Vice Versa ou des choses comme ça. Ou ça, c'est sublime pour ça. Ou Alain Chabat, il fait ça très bien quand il fait Astérix. Goscinny faisait ça très bien. Donc on travaille en effet comme ça. Et quelquefois, on a une vanne. Par exemple, si on a une vanne dans l'absolu, on va tout de suite sentir à qui elle ira le mieux. Mmh. Comme personnage.
Et vous disiez que les comédiens donc développent aussi les caractéristiques. Évidemment, quand on fait 5 épisodes, j'imagine qu'on y va de plus en plus. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que les registres se sont encore plus approfondis pour chacun.
Oui, c'est ça. Ils sont précisés. Bah, en fait, par exemple, quand vous avez Isabelle, ce qu'elle dit, Isabelle Nanty, qui joue Cathy, qui joue ma femme. Isabelle dit, je suis une piètre improvisatrice. Je sais pas ça. Quand elle joue Cathy. Elle improvise, mais elle me dit parce que c'est le personnage. Ah oui. Donc elle improvise dans le personnage. Et moi, quand j'ai tourné là, par exemple, je laissais les comédiens en fin de scène, je laissais tourner. Allez-y, allez-y, allez-y. Et moi, je prends. Et il y a des pépites qui sortent.
Par exemple, l'humour de Pierre Lottin qui joue Wilfried Tuche. Donc c'est le fils qui aime le rap.
Voilà, c'est ça. Il est cash. Il est un peu à côté. Il est cash à côté, quoi. Et il joue un imbécile. On peut le dire. Mais voilà. Et Pierre le fait magnifiquement bien. Et c'est amusant à faire quand on tourne parce que des fois je regardais Pierre et donc je le vois jouer. Tout ça, c'est super. Puis des fois je voyais son œil parce que c'est l'œil qui compte. Et je lui disais, Pierre, là, c'est toi. Je vois ton œil, Pierre. C'est pas le personnage.
C'est drôle.
Et là, d'un seul coup, il met quelque chose dans le regard, comme s'il vidait son regard, et vous avez le personnage. Mmh. C'est toujours le regard, un personnage.
Et vous disiez, il y a beaucoup d'absurdes. Il y a notamment ce sketch dans le dernier épisode de la clé. Oui. Alors, Jeff Tuche a perdu une clé.
Une clé imaginaire.
Et donc, voilà, c'est une clé qu'on ne voit pas.
Ouais, c'est une clé imaginaire.
Mais tout le monde la cherche.
Ouais. Oui, pourquoi pas. On cherche bien des clés qui existent. On peut aussi chercher des clés qui n'existent pas. Ouais. Non, mais à un moment. C'est ça avec Jeff. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand on a l'idée, par exemple, de ça, de faire il a perdu une clé qui n'existe pas. Donc, les gens cherchent avec lui. Donc, évidemment, une clé qui n'existe pas, ça n'existe pas. Mais tout ce qui se passe après, la recherche de la clé, retrouver la clé, tout ça est très concret. Tout ça est vraiment, tout le monde cherche une clé qui n'existe pas. Et il montre aux autres la clé qui n'existe pas en disant, voilà, il en a une qui ressemble. Il dit, voyez cette clé qui n'existe pas. Ben, elle ressemble à celle-là. Ah, d'accord, qui n'existe pas non plus. Donc c'est logique, non?
Oui, tout à fait.
Ah, moi ça me plaît, mais c'est tellement, c'est l'humour anglais. Monty Python aurait fait ça magnifiquement bien. C'est ce que j'aime. Merci Bernard aussi à l'époque. Ouais. C'était cet humour-là. Donc tout ça j'aime beaucoup. Oui.
Il y a aussi quelque chose qui est important dans les Tuches finalement, et peut-être qu'on dit pas assez, c'est que c'est très sentimental.
Ah non, il faut. Ah oui, alors oui, vous avez raison. Dans le sens, je pense que faut que ce soit très sincère dans les relations familiales. Ouais. dans les relations d'ailleurs sentimentales entre les deux, entre Jeff et Cathy, c'est un couple qui s'aime et ils sont beaux à voir. On les aime, on aime les voir s'aimer. Et c'est très important. Et quand on a créé les Tuches, la première fois, le premier jour, Isabelle est venue me voir en me disant « Écoute, tu sais ce qu'il faudrait ? C'est qu'on sente qu'ils s'aiment dès le départ. On sente qu'ils sont ensemble depuis toujours, qu'ils se sont sauvés tous les deux. » Et ça, c'est important. Donc ça, on joue vraiment très sincère. Et notre amour pour nos enfants, il faut que ce soit sincère. Vous pouvez pas, la comédie, si c'est pas sincère, c'est foutu. Il faut que ce soit le plus sincère. Et il y a des scènes dans le film, il y a une scène que j'aime beaucoup, ils se retrouvent tous les deux, qui pourrait être dans un film qui n'est pas une comédie, d'ailleurs, je trouve.
Ou dans une comédie romantique.
Ou dans une comédie romantique, oui. Et alors ça, je suis d'accord avec vous, c'est très important pour nous, ça.
Je voudrais vous faire écouter le cinéaste Pierre Etex, qui était vrai grand clown aussi. Il était interrogé sur France Inter en 2016, et il parle justement du rythme.
Alors, j'ai toujours eu envie que le spectateur soit attentif. Alors, on appelait ça un rythme lent, mais c'est pas ce que j'appelle un rythme lent, ça sollicite l'attention du spectateur. Aujourd'hui, on ne peut pas se représenter ce que ça veut dire. Je sais qu'il y a quelque temps, un jeune garçon qui fait une école de cinéma a dit « Oh, les films des textes, oui, mais bon, le montage est trop lent. » C'est absurde, parce que c'est une question de rythme. C'est tout. Alors, le fait d'installer une situation dans un plan, et ça vient vraiment chez les clowns, d'installer une situation, de la développer, etc., il faut un certain temps pour exposer tout ça. Et si on n'est pas sensible à ce rythme-là, ben c'est perdu.
Voilà, Pierre Etex, pour qui l'important, l'essentiel, c'était le rythme.
Mais bien sûr, il a raison. Mais Pierre Etex, c'est marrant, quand vous m'avez cité, j'avais Pierre Etex en tête, que j'adore. J'adore Pierre Etex, en effet. Le rythme, c'est le plus important. Et quand on dit rythme, ça ne veut pas dire rapidité. C'est ce qu'il dit, là. Ça peut être, en effet, un rythme très lent. Et c'est ce qu'on a, c'est les variations... Comme une musique, comme du jazz, où vous avez des parties, ou même dans la musique classique, ça ralentit et ça s'accélère et ça re-ralentit. Mais la lenteur peut être un rythme extraordinaire, qui est très difficile à faire également, aussi difficile que la rapidité. Et on ne joue que là-dessus. Moi, je ne joue que là-dessus. Je joue pas à l'écriture, bien sûr, de ça. Je joue au tournage de ça, parce qu'il y a le rythme des comédiens. Et ensuite, il y a le montage, il y a le rythme du montage. Le temps en trop, le temps... Vous savez, quand il y a un rythme long, c'est-à-dire vous avez un rythme où c'est drôle, et ensuite vous perdez le rire parce que c'est trop long, et le rire revient parce que c'est trop long, parce que c'est beaucoup trop long. Il ne faut pas avoir peur du beaucoup trop long.
Ouais.
Bon, voilà, ça me plaît beaucoup. Et ça, c'est la base. Hein. Chaplin le faisait tout, et c'est un vrai plaisir, ça, presque mécanique.
Oui. Et là, vous réalisez, Jean-Paul Roux. Oui. Donc, en jouant, justement, trouver le rythme quand on réalise, on est aussi derrière la caméra. Oui. Enfin, pas derrière la caméra au moment du tournage, mais enfin, comment on arrive à le sentir.
Oui, vous le sentez.
Ouais, même en étant... Oui.
Alors moi, ce que je fais, c'est que je tourne beaucoup. Alors, on tourne beaucoup, pardon, avec tous les comédiens en plan séquence.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, alors après, la caméra bouge suivant qui on va filmer, mais je fais la scène en entier. Parce que c'est la scène qui a un rythme. C'est pas deux répliques, c'est la scène. Donc les comédiens, il faut qu'ils aient le bon rythme, le bon tempo pour pouvoir répondre. Parce que ça va pas être pareil. Si vous avez deux secondes de trop, votre réponse, elle sera moins bien dans l'intention. Voilà, donc je fais ça, beaucoup.
Mais ça, c'est, vous l'avez appris, ce rythme-là, et par exemple, laisser tourner les scènes, les faire en plan séquence ?
Ben, j'ai toujours fait ça dans mes films, ouais. Que ce soit des comédies ou pas d'ailleurs. Ça vient des sketchs, ça vient de ce qu'on faisait, des Robin des Bois, de tout. Je pense que le rythme, c'est un peu, vous l'avez ou vous l'avez pas. Ça s'invente pas, ça s'apprend pas. Je pense que ça ne s'apprend pas. Vous le savez, je sais pas comment dire, c'est instinctif. Vous êtes au montage, et vous avez une scène, et vous faites... Tac, pour couper, c'est là qu'il faut couper. C'est pas une seconde avant, c'est pas une seconde après, c'est là.
Pierre Etex, donc, on l'a dit, qui était un vrai grand clown.
Ah oui.
Jeff Tuche aussi, finalement.
C'est un clown, oui, bien sûr. Mais oui, c'est des clowns, tous sont des clowns, sont des clowns. On crée des personnages, on crée des figures. Et grâce à ces figures, on peut tout dire. Le nez rouge, ça sert à ça. Charlie Chaplin, il crée Charlot. Et avec Charlot, il peut tout faire. il peut donner coup de pied à un enfant, il peut tout faire. Charlie Chaplin ne peut pas.
Oui.
Charlot, il peut tout faire. Et Jeff Tuche, il peut tout faire. Et tous les personnages, on peut tout faire. C'est un clown. C'est comme quand vous aviez à l'époque les guignols. Les guignols pouvaient tout dire parce que c'est des marionnettes. Mmh. Les Simpsons peuvent tout dire parce que c'est du dessin. Nous, on peut tout dire parce qu'on est en Jeff. Et quand on écrit, c'est jubilatoire. Parce que vous écrivez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous ne pourriez pas dire ou faire, vous, qui paraîtrait un peu étrange ou décalé ou pas drôle. Et d'un seul coup, quand ça passe par le filtre de ce personnage, c'est magnifique. C'est un terrain de jeu inépuisable.
Mais est-ce que vous avez des limites, justement? Parce que vous ne pouvez pas tout dire, de toute façon,
bien
j'imagine.
Bien sûr. C'est pas des limites imposées ou c'est pas des limites qu'on se fixe. Elles sont inconscientes, en fait. Ouais. C'est-à-dire que... ça m'arrive jamais de me dire, oh ben non, ça non. Non, parce que je l'ai même pas pensé. Mmh. Alors, ça m'arrive, par exemple, si vous avez, par exemple, vous savez, le marketing qui va travailler, par exemple, sur les tuches et tout, et qui va nous faire des petits sketchs, écrire des petites choses. On lit, et des fois, on fait, non, ça, c'est pas les tuches. Mmh. Et je saurais pas vous dire pourquoi.
Ouais.
C'est drôle, hein, c'est pas le problème. Ah, c'est pas eux. C'est pas leur façon de penser. C'est pas leur philosophie. Faut faire attention à ça. Faut toujours rester dans l'ADN.
Surtout que, voilà, au cinquième épisode, ouais, vous pouvez pas vous permettre, là,
non. Non, parce que déjà, les personnages, pour moi, et c'est pas une vue de l'esprit et tout, je pense qu'ils nous appartiennent plus. Vraiment. Je pense qu'on a, c'est comme on a créé Frankenstein, quoi. Mmh. Le créateur de Frankenstein, sa bête le dépasse. Et là, je pense que c'est un petit peu ça. Les tuches existent par eux-mêmes. Et le public les aime, les connaissent, quelquefois mieux que nous, comprennent mieux les choses que nous, quelquefois, dans leur façon de penser et pourquoi on les aime. Moi, quelquefois, j'ai des remarques où je fais, ah oui, c'est exactement ça. Donc, nous, quand on écrit, il faut pas se dire jamais, tiens, qu'est-ce qui va plaire aux gens? Ça, c'est la pire chose à faire, parce qu'il y a un truc presque un peu mépris en faisant ça. Non, il faut être le plus sincère possible et faire ce qui nous fait rire et ce qui nous semble. Et à chaque fois, on se dit, oui, ça, c'est les tuches. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est toujours intéressant, le regard, c'est presque psychanalytique de se dire, parce que nous, on nous pose la question un peu comme si on savait. On nous dit, mais pourquoi ça marche? On pose la question, pourquoi ça marche, les tuches? Comme si je savais. C'est pas moi qui sais. C'est les gens qui aiment qui savent. Mais moi, je sais pas.
Eh ben, avant de continuer à discuter des tuches, épisode 5, on va quand même écouter un petit peu ce que ça donne. Dans ce film, donc, toute la famille part en Angleterre et est invitée chez le roi et la reine. Et ils s'entraînent donc pour se familiariser avec les règles de savoir-vivre à l'anglaise.
Tuches, family, nous allons apprendre ensemble les arts de la table. Car lorsque vous dînerez en face de Sa Majesté le Roi, aucune faute ne saurait être tolérée. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur.
À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison.
Ah ouais, je vous disais aussi. Va manger ton dessert quand ta cuillère est dans le jardin.
Gordon, parlez plus simple.
Bien. La fourchette est toujours dans la main gauche.
Si on est droitier.
C'est pareil.
Et pour les gauchers.
C'est pareil.
Pour les manchots.
Bon, Jeff Tuche, t'es ni manchot ni pingouin.
Ouais.
Alors, laisse-lui finir sa phrase, bon sang.
Et pour les cul-de-jatte, après, il dit. Pardon.
Vous connaissez par cœur, hein, complètement.
Mais je l'ai monté, le
oui,
film.
Mais quand même.
Ah non, mais tu peux. Mais pardon, j'allais vous.
Oui, c'est pas grave.
C'est pas grave. Non, mais quand on fait un montage, on passe 2 mois sur l'image et on le voit 1000 fois et je le connais par cœur, le film. Je peux jouer tous les personnages avec les intentions, avec tout.
Alors, les Tuches, ils ont été à Monaco, ils ont été aux États-Unis, ils ont été à l'Élysée, puisque Jeff Tuche a été élu président de la République. En fait, l'idée, c'est toujours de les déplacer dans un endroit où les codes...
Et bah ouais, vous avez tout compris. C'est le poisson hors de l'eau. C'est-à-dire, ils ont leur code, ils ont leur monde, et ils vont dans un monde qui n'est pas leur. Et souvent, un monde qui peut être impressionnant, avec très codifié, qui peut être impressionnant. Monaco, en effet. Et au lieu de s'adapter à ce monde, eh ben non, ils restent mêmes. Et ils vont perturber les autres. Et ils vont... D'un seul coup, c'est les autres qui vont être perturbés comme un petit caillou dans l'engrenage. Mmh. Et ça, c'est amusant. C'est très amusant.
Alors, c'est amusant, mais comment faire pour que cette famille ne soit pas abîmée par le regard qu'on porte sur eux?
Ah, voilà. Parce que ce sont des enfants.
C'est des enfants.
Bah oui.
Ouais.
Bah, c'est des enfants. Bah, ils ont, bah, comme un enfant, ils sont, ils n'ont pas de jugement sur l'autre. Ils le prennent déjà comme il est. Après, ils peuvent l'aimer ou pas l'aimer. Mais ils n'ont pas de jugement. Ils n'ont pas d'a priori. Comme un enfant, en général, le bon a priori. Copain, si t'es sympa, il est copain. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont le plaisir du moment. Et ils ont un appétit de la vie, d'une découverte du monde, comme peut avoir un enfant. Vous voyez, on joue vraiment avec les codes de l'enfance, et aussi quelquefois ils n'ont pas de filtre, comme peut avoir un enfant, et peut dire des choses terribles.
Ah ouais, exactement. Alors, c'est drôle que vous disiez ça. Enfin, c'est drôle, non, c'est juste. On va écouter Franquin, le dessinateur belge, qui bien sûr a créé le personnage de Gaston Lagaffe, et il parle de son personnage exactement comme vous parlez de vos tuches. On l'écoute.
Je suis incapable de donner un âge à Gaston. Évidemment, il conduit une voiture, il a déjà une sorte d'idylle avec Moiselle Jeanne, etc. Bon, mettons que c'est un adolescent, mais il est encore assez près du gosse par son comportement. Quoi. Il a un comportement tout à fait enfantin, très souvent. Je crois que c'est justement quelqu'un qui refuse l'âge adulte. Je crois qu'il se comportera comme un gosse toute sa vie. Et il prolonge l'enfance, quoi. C'est-à-dire c'est une enfance qui n'en finit pas, Gaston, j'ai l'impression. Pour ça, il est un peu inadapté dans un monde sérieux, spécialement dans des bureaux où il faut travailler sérieusement, classer les trucs dans les tiroirs, etc. Et ça ne lui va, ça ne lui convient pas du tout. Ce sont les choses importantes. Et, évidemment, il y a une hiérarchie dans les choses importantes. Mais enfin, sa hiérarchie à lui est le contraire de celle des gens qui l'entourent, évidemment. Oui, c'est un inadapté. Je crois qu'il y a une chose importante dans la vie de chacun de nous, c'est... le moment où on découvre péniblement que la vie n'est pas un jeu, justement. Et c'est une des premières virginités qu'on perd, et c'est extrêmement pénible, celle-là, parce que quand on s'aperçoit que la vie est une chose épouvantablement sérieuse, où on n'a rien gratuitement, et le plaisir est rare, et il faut gagner péniblement le moindre moment de satisfaction, eh bien, je crois que c'est ce moment-là que Gaston repousse assez bien, et c'est ce moment-là que chacun d'entre nous voudrait repousser, j'ai l'impression.
Voilà, le dessinateur Franquin, il était interviewé sur France Bleu Nord Picardie, d'ailleurs, en 73, et donc il dit, voilà, la vie est épouvantablement, sérieuse, mais c'est ça aussi les c'est que c'est un conte où tout finit bien, même si on sait que c'est pas vrai, quoi, dans la vie.
Mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est Renaud qui dit après l'enfance, tout est quasiment fini. Il dit ça dans une de ses chansons. Et moi, j'aime ça, ce côté. Après, il y a sûrement une part de nostalgie ou tout ça, mais mélancolie en tout cas. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Franquin, évidemment, Gottlieb. À un moment dans Les Tuches, le personnage dit j'ai l'impression que. Je suis différent. Oui. Et elle lui répond, non, c'est pas toi qui es différent, c'est les autres qui sont pas pareils. Mmh, et ça, j'aime bien ça. Je trouve que ça résume bien.
Alors, à la différence, on en parlait d'enfance, c'est que forcément, vous vieillissez tous autant que vous êtes.
Oui.
C'est-à-dire les enfants, Donald, qui était tout petit, grandi, et c'est ça, un jeune homme maintenant.
Ça, j'aime.
Et vous
ça.
Aussi, vous vieillissez.
Mais
voilà.
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce que ça crée, ça? C'est beau, hein, moi, je trouve.
Mais moi, j'adore ça. Parce que il ne change pas. C'est un ami à moi qui me disait ça, et je trouve ça très juste. Dans la vie, on ne change pas, on se précise. et je trouve ça juste. Donc, chaque fois quand on écrit, on se précise. Ils se précisent dans leurs défauts, ils se précisent dans leurs qualités, ils se précisent dans leur humanité. Et ça, j'aime ça. Il faudrait pas les faire changer, ça voudrait rien dire. C'est comme un personnage de bande dessinée. Astérix ne change pas, Gaston, évidemment, il ne change pas. Et c'est ça qu'on aime aussi chez eux, et ça nous fait du bien, parce que nous, on change. Mais on aime aussi parler de la vie, et du temps qui passe, et des enfants qui grandissent. Et moi, ça, pareil, mais moi, c'est mon côté mélancolique que j'ai. Je peux pas m'en empêcher, même dans l'étude, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des choses en rapport avec l'enfance, les enfants qui reviennent. Je peux pas, c'est plus fort que moi, c'est mon terreau. C'est le terreau qui me touche le plus. Et oui, on essaie que ce soit vrai en même temps, on essaie que cette famille... avance dans le temps, vieillissent comme on vieillit tous, ouais.
Ouais. Et si je vous dis que moi, à mon sens, la reine, la princesse, c'est Cathy Tuche, c'est Isabelle Nanty.
Bien sûr. Ah ben bien sûr, évidemment. C'est Cathy, et d'autant plus dans celui-là. C'était important, moi je... Mais vous savez, on s'inspire de nos vies, hein, moi, même quoi qu'on écrive. Moi je m'inspire de... Là par exemple, je me suis beaucoup inspiré de mes parents, du rapport... de mes parents, pas des personnages, mes parents sont pas comme ça, évidemment, bien sûr, mais du rapport, du temps, ma mère qui peut dire à mon père elle veut faire quelque chose, mon père il dit oh non, j'ai pas envie, elle dit oh je le fais sans toi, et d'un seul coup là mon père il est ah bon, mais comment ça, mais c'est-à-dire tu vas prendre la voiture, bah oui, mais c'est-à-dire tu vas conduire, bah oui, et ça qu'est-ce que ça me fait, je pense que mon père, l'idée ma mère au volant, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, ma mère elle est assise à côté, lui il conduit, c'est la base. Et ça, ça me fait tellement rire. Au bout de 50 ans de mariage, et tout ça, ça me touche. Ou ma mère qui m'appelle et qui me dit « J'en ai marre de ton père, je vais divorcer. » Je dis « Maman, t'as 80 ans. » Je pense que franchement, c'est un peu tard, quoi. J'en ai marre. Et lui qui m'appelle « Oh, ta mère, je supporte plus. » « Ah non, mais elle est fatigante. » « Non, mais attends, il y a un moment, ça va, quoi. Moi, je vais faire ma vie. » « Tu vas faire ta vie où ? » Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais même pas ton code de carte bleue. Qu'est-ce que tu vas faire ta vie? Et ça, c'est l'amour, en fait. Voilà. Mm-hmm. C'est ça que j'aime.
Ils regardent les tuches, vos parents?
Ah, ils adorent.
Oui.
Bah, je me suis inspiré de mon enfance aussi, hein, ah, pour oui. le personnage, beaucoup. Hein. Donc, oui, ils adorent. Bon, après, il faut partir du principe que mes parents aiment tout ce que je fais. Hein. C'est quand même la base. Hein. Et toujours, tout est formidable. Et là, par exemple, je pense qu'ils écoutent. Ma mère va m'appeler après en me disant « C'est la meilleure émission que t'aies faite. » Mais ne le croyez pas, la prochaine sera la meilleure aussi.
Oui,
hein.
Oui, je...
Ne prenez pas pour vous. Hein.
Pas de problème.
Voilà. Donc voilà, donc oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je me nourris de tout ça. Hein. Voilà. Si on se nourrit pas de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit, je pense qu'on n'arrive pas à écrire des choses qui peuvent toucher les autres.
Ce sont des gens gentils quand même, les Tuches.
Oui, ils sont bienveillants, ils sont gentils. La gentillesse, c'est un sentiment... Moi, j'aime bien les gens gentils. J'aime bien dire de quelqu'un, de parler de quelqu'un. Ah, lui, je l'aime. Il est gentil. Alors que souvent, c'est un peu péjoratif, gentil. C'est un peu con-con. Le vrai sens, la gentillesse, c'est très important. C'est un sentiment, qu'on met pas souvent en avant.
Mmh. Est-ce que vous pouvez, il nous reste peu de temps, la mission est bientôt finie, mais est-ce que vous voulez bien nous parler de L'Air de Rien un petit peu?
Ah oui,
c'est le spectacle
bien.
Que vous
c'est
préparez.
C'est un spectacle. Alors, je vous explique. J'étais allé voir Jean-Louis Trintignant sur scène. Il faisait un spectacle où il disait des textes, il déclamait, il récitait des grands textes, des grandes poésies de la littérature française et étrangère. Et en sortant, je me suis fait la réflexion, je me dis, la poésie aujourd'hui, et malheureusement, je le regrette, n'est plus un art majeur. Je me suis dit, quels sont les poètes d'aujourd'hui? Je dis, c'est les auteurs de chansons. Et donc, j'ai dit, tiens, j'ai envie de les mettre à l'honneur, les beaux textes. En oubliant un peu la musique, même si je suis accompagné au piano, je ne chante pas, je dis les textes. Parce que j'ai l'impression, même quand vous entendez « Ne me quitte pas » de Brel, vous n'entendez plus les paroles. C'est devenu un mélange comme ça, comme presque une chanson étrangère. Donc j'ai dit, on va retirer tout, on va dire le texte. Et donc je rends hommage comme ça sur scène aux grands auteurs Brel, Brassens, Barbara évidemment, qu'on connaît tous, Renaud. Mais je voulais aussi aller vers la chanson populaire avec des textes de Michel Delpech qui sont formidables. Joe Dassin, Balavoine, Aurel San. Ouais. Voilà, c'est un spectacle. Je pars en tournée et je vais être à l'Olympia en octobre. Et ça, je l'ai dit parce que je suis fier.
Eh ben, bravo à vous et on espère qu'on vous reverra à cette occasion. Les Midis, c'est fini. Les Tuches, God Save the Tuches, sort mercredi prochain. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter Elton John, Your Song.
Yes.
It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
Cette émission a été préparée par Aïssa Tounder, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vigné, Lise Ripoche et Louis Cosnard. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec à la technique Ludovic Auger.